VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Bonjour, nos toutes dernières nouvelles. En Côte d'Ivoire, l'ex-première dame Simone Gbagbo, condamnée à 20 ans de prison. C'est le double de la peine requise par le parquet général à la fin des réquisitoires. Madame Gbagbo a été reconnue coupable d'attentat contre l'autorité de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel et trouble à l'ordre public. Elle était notamment jugée pour son rôle dans la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait plus de 3000 morts. Au Mali, nouvelle piste dans l'enquête sur l'attentat de Bamako. La fusillade qui a fait 5 morts vendredi soir dans un bar de la capitale malienne aurait été menée par au moins 5 personnes. C'est ce qui ressort des investigations en cours avec l'appui d'enquêteurs étrangers, notamment français et belges. Des détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
L'enquête continuera avec l'appui de la France. Choguel Kokala Maïga, ministre porte-parole du gouvernement malien.
Par définition, ces genres d'enquêtes ont vocation à ne pas être commentées jusqu'à ce qu'elles aboutissent. La France va aider le Mali, va appuyer le Mali dans les enquêtes, dans les investigations, afin de rechercher les coupables et les punir. La panique ne gagnera pas le rang des Maliens.
Mieux, le gouvernement malien reste dans la logique de la signature de l'accord de paix afin d'éviter toute polémique sur le terrain.
Les ennemis de la paix, quels que soient les coins où ils sont tapis, sortent pour travailler à saboter l'accord. Et nous inscrivons les actes qui sont en train d'être perpétrés dans ce cadre-là. Parce qu'en vérité, tant qu'une partie de nos frères n'adhéreront pas à l'accord, tout ce qui se passera pourra être interprété. Certains diront que ce sont eux, mais nous savons aussi que les terroristes se cachent derrière les désaccords entre Maliens pour agir.
Choguel Kokala Maïga, ministre porte-parole du gouvernement malien. Au Nigeria, les armées tchadiennes et nigériennes poursuivent leur offensive contre le groupe islamiste Boko Haram dans le nord-est du pays. Par ailleurs, le chef de Boko Haram, Aboubakar Shekau, a annoncé le week-end dernier son allégeance à l'État islamique dans une déclaration sur Twitter et dans un enregistrement audio de 8 minutes dans lequel il promet de faire enrager les ennemis d'Allah. Quel sera l'impact de cette alliance sur les deux groupes islamistes concernés? La réponse de Yann Saint-Pierre, expert en lutte contre le terrorisme et spécialiste de Boko Haram, au micro de Claire Morin-Gibourg.
Ça aura un impact très, très fort sur le recrutement, particulièrement du côté de Boko Haram. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Boko Haram, même au sein des cercles djihadistes, a très, très mauvaise réputation. Ils sont vus un peu comme des chiens sauvages sur lesquels on ne peut pas vraiment compter. Donc, le fait d'être associé maintenant à l'EI leur donne une couverture de crédibilité, ils sont maintenant associés à un partenaire qui a un certain niveau de succès, si on peut s'exprimer ici, qui a de l'envergure, qui a des ressources, une structure qui offre maintenant des garanties pour ceux qui désirent se joindre à Boko Haram. Ça va effectivement avoir un impact très, très fort au niveau du recrutement, moins du côté de l'État islamique, parce que pour eux, ils n'ont pas nécessairement besoin de ça. Ça demeure un grand coup. Nous, on a été en mesure de vérifier. Parmi les supporters de l'État islamique, ils étaient très, très heureux de savoir que Boko Haram avait prêté allégeance, tandis que Boko Haram, les supporters étaient beaucoup plus silencieux. Donc, l'impact à ce niveau sera beaucoup plus sur Boko Haram que pour l'État islamique.
Yann Saint-Pierre, expert en lutte antiterroriste et spécialiste de Boko Haram. Selon Abuja, cette allégeance de Boko Haram à l'État islamique serait avant tout un acte de désespoir face aux attaques des armées du Nigeria, du Tchad et du Niger. Au Tchad, début de la grève de 3 jours préconisée par l'Union nationale des étudiants tchadiens, UNET, pour protester contre la violente répression d'une manifestation de lycéens à N'Djamena hier par les forces de sécurité qui s'en sont pris également à des étudiants. Bilan entre autres, un étudiant tué et plusieurs manifestants blessés et arrêtés. On écoute Nadjo Kaina, président de l'Union nationale des étudiants tchadiens.
Le Bureau national des lunettes dénonce et condamne cette agression injuste perpétrée à l'égard des étudiants en général et ce, en pleine session dans les salles et amphi. Nous tenons à informer que les étudiants étaient victimes de traitements cruels, inhumains et dégradants, bien que la manifestation ne les concernait pas. Nous déplorons et exprimons notre amertume pour les étudiants blessés, décédés, ainsi que les multiples arrestations. Nous tenons à informer toutes les couches sociales de ces actes cruels et barbares. Et entendons clairement exprimer notre mécontentement sur le plan national. Par conséquent, une grève de 3 jours sera observée par toutes les institutions de l'enseignement supérieur sur le plan national à compter de mardi 10 mars 2015 au vendredi 13 mars 2015.
Nadjo Kaina, président de l'Union nationale des étudiants tchadiens. Un extrait fourni par FM Liberté, notre station partenaire à N'Djamena.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Cap sur Madagascar, où suite à une grande sécheresse, 200 000 personnes souffriraient de la faim et 16 enfants seraient morts de malnutrition. Le Programme alimentaire mondial a lancé un appel à l'aide. Des précisions avec Claire Morin-Gibourg.
Selon l'agence onusienne, ce sont 200 000 personnes qui souffriraient de difficultés alimentaires aiguës. Les chiffres du gouvernement sont, eux, plus pessimistes, faisant état de 350 000 personnes souffrant de la faim. Au-delà de l'urgence, le PAM appelle les donateurs à immédiatement reconstituer les réserves alimentaires, même si, pour l'heure, la situation n'est pas encore qualifiée de famine, comme en 1991, lorsque plusieurs centaines de personnes étaient mortes dans la région. Bertrand Randria Narivo, originaire de la région qui travaille depuis 2001 avec les diverses ONG intervenant dans cette partie de l'île, a confié à l'AFP que la sécheresse frappe tous les 5 ou 6 ans, le sud de Madagascar. Selon lui, la mise en place d'un système de drainage de l'eau et un désenclavement de la région sont prioritaires, mais beaucoup de bailleurs voulant mettre en place ce système ont été découragés par le manque de volonté des dirigeants successifs du pays.
L'actualité dans le reste du monde, appui militaire des États-Unis aux pays baltes dans le cadre du renforcement de l'OTAN en Europe de l'Est. Un premier détachement de 300 militaires américains de la 3e division d'infanterie est déjà sur place. Le point avec Saloua Djafari.
Washington devrait en envoyer 2700 autres dans les prochaines semaines pour une mission de 90 jours selon le porte-parole du Pentagone. Après quoi, les soldats rentrent, l'équipement reste aussi longtemps que possible, tant que ce sera nécessaire pour dissuader la Russie d'une agression, selon le général John O'Connor. Les équipements comprennent notamment des chars Abrams, des véhicules de combat Bradley et des véhicules de transport Humvee, ainsi que des hélicoptères. Ce déploiement s'inscrit dans le cadre de l'opération Atlantic Resolve, détermination atlantique lancée par les États-Unis dans le cadre de l'OTAN pour rassurer les pays membres et alliés de l'organisation atlantique face à la Russie.
Et maintenant, la minute économique avec Nathalie Barge.
Côte d'Ivoire, à l'issue d'une visite officielle de plusieurs jours dans le district du Bas-Sassandra, le président Alassane Ouattara a annoncé dimanche à San Pedro qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts, voire même plutôt une baisse, indique l'agence de presse africaine. Lors d'une conférence de presse, M. Ouattara a estimé que le pays était doté d'un des meilleurs cadrages macroéconomiques dans le monde, selon ses termes. Nous entendons maintenir ces bonnes performances, a-t-il souligné, ajoutant vouloir baisser les impôts au fur et à mesure que la base imposable va s'améliorer, a-t-il dit. Il a par ailleurs dit souhaiter convaincre les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine de permettre un début de baisse des droits de douane. Vodafone a lancé le premier service de transfert de fonds frontaliers entre la Tanzanie et le Kenya via la plateforme de paiement mobile M-Pesa, rapporte Jeune Afrique. Ce service, a déclaré l'opérateur britannique, rapproche quelque 18 millions de clients M-Pesa de Safaricom au Kenya et environ 7 millions chez Vodacom Tanzania grâce à un réseau de 180 000 agents établis dans les deux pays. La plateforme de paiement mobile est une alternative aux services traditionnels de transfert de fonds internationaux. Selon une enquête réalisée par Urban Studies, l'Afrique et le Moyen-Orient ne représentent que 2% du commerce électronique mondial, avec toutefois un potentiel très élevé, rapporte la presse sénégalaise. L'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale représentent plus de 90% du commerce électronique. Comme le constatent d'autres études auparavant, le document relève cependant les nombreuses potentialités qui s'offrent à l'Afrique. En effet, McKinsey & Co. avait estimé que le commerce électronique pourrait représenter quelque 10% des ventes au détail des grandes économies africaines d'ici 2025.
Merci Nathalie Barge. Pour parler interlibyen pour terminer, réunion sur la crise libyenne à Alger sous les auspices de la mission d'appui de l'ONU en Libye. Une quinzaine de dirigeants politiques libyens de premier plan devraient y participer aujourd'hui. Par ailleurs, l'embargo sur les armes a été maintenu en Libye. 7 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont bloqué la demande de dérogation introduite par le gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info.